Alain Bashung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la cinquième des 10 émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bashung.
Les radios francophones publiques présentent
Alain Bashung.
De l'aube à l'aube.
De l'aube à l'aube.
Alain Bashung, De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golland avec, aujourd'hui,
Chantal Monterastelli, compagne puis épouse d'Alain Bashung.
Boris Bergman, parolier. Jean Fauque, auteur de chansons.
Pascal Jacquemin, parolier de figure imposée.
Pierre Mikhailov. J'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bashung, qui s'appelle Bashung, Vertige de la vie.
Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bashung de son vivant.
Bashung, Bashung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Cinquième épisode, le laboratoire du docteur Bashung. Après les triomphes de Gabi et de Vertige de l'amour, Alain Bashung coécrit en 1982 avec Serge Gainsbourg, Plaie blessure, un 33 tours manifeste qui rompt avec la légèreté de ses succès précédents. Suivront de 1983 à 1989 trois albums relativement confidentiels, mais qui permettront à Bashung d'affiner son travail d'écriture avec notamment l'auteur Pascal Jacquemin pour l'album Figure imposée, le retour de Boris Bergman pour Passer le Rio Grande et les premières collaborations avec son ami Jean Fauque pour les textes de Novice.
En fait, j'ai simplement découvert un jour que mes propres fantasmes pouvaient être plus ou moins intéressants à raconter.
Il était clair que, comme il me répétait assez souvent, qu'il était créateur et que pour être créateur, il faut avoir un minimum de contact avec le concret.
Chantal Monterastelli, deuxième épouse d'Alain Bashung.
Alors, ma rencontre avec Alain, c'était quelque chose d'assez folklorique. Je vivais, entre guillemets, disons que je cohabitais à l'époque avec un monsieur qui avait comme ami Jean-Pierre Lebrun, qui à l'époque était manager d'Alain. Un soir, donc, nous sommes invités à dîner chez le Jean-Pierre Lebrun pour rencontrer le poulain merveilleux qu'il couvait sous son aile. Il faut quand même planter le décor. J'étais donc accompagné de ce monsieur veste en tweed, petit chien sous le bras, jaguar. Et je vois quelque chose d'indéfinissable qui sortait d'une de ses premières télés, bourré comme un coin, avec le maquillage télé, c'est-à-dire un peu orange et bien épais, avec le rimmel qui dégoulinait dessus, une chemise en synthétique panthère et un pantalon en faux serpent. Ne sachant plus ni où il était, ni ça n'avait aucune importance. Et très gentiment, on me le met à côté de moi à table. La personne non identifiée se roulait des pétards en attendant, pendant que tout le monde mangeait les entrées. Puis à un moment, je me suis tournée vers lui et j'ai dit, écoute, tu manges quand tu veux. Et il a éclaté de rire. Et ça a eu l'air de, voilà, comme si personne ne le faisait jamais rigoler dans la vie. Le dîner se passe, enfin lui, je ne sais pas ce qu'il en retient. Toujours est-il qu'au moment du départ, alors que Monsieur Vestantoui, des chiens sous le bras, attendait près de la porte, Alain m'attrape et me roule une pelle devant tout le monde, y compris devant ce mec, et me dit « je t'appelle ». Ce qui m'a séduit chez Alain, je pense que c'était la rencontre avec quelqu'un qui était en train de se noyer. J'ai senti une demande. Ça n'a pas été un coup de foudre, hein. Vraiment pas. De son côté non plus, je crois pas. Je pense que lui a vu quelqu'un sur qui il pourrait se reposer. Je devais dégager à ce moment-là une force, une espèce de force tranquille, entre guillemets, qui, il l'a senti parce qu'il avait un instinct incroyable. Il a senti que ça pouvait, qu'il en avait besoin à ce moment-là. Il avait besoin d'être protégé et en même temps de savoir qu'il pouvait avoir un filtre entre lui et le concret de la vie. On a habité d'abord boulevard Richard Lenoir, ensuite à la Celle Saint-Cloud quand il est sorti de sa cure de désintox. À chaque endroit où on habitait, il y avait un lieu pour lui où il composait. Donc c'était la nuit, c'était n'importe quand. Il grattait. Dans sa fantasmagorie, dans ses délires, dans ses souffrances, il souffrait énormément, tout le temps, c'était visible.
Comment se fait-il, Chantal, que pour créer, pour les textes, surtout pour les textes, il y avait besoin constamment d'un miroir, donc d'un jeu de mots, finalement, entre lui et ses paroliers. Tous ses paroliers, semble-t-il.
Alain ne connaissait pas ses limites intérieures. Le fait d'avoir quelqu'un en face de lui pour travailler, ça lui impose une limite. Et vous dites miroir, moi je dirais jokari, vous savez, la balle au bout de l'élastique. Voilà, ça l'aidait. De toute façon, ces accouchements-là étaient tellement douloureux, auraient été encore plus douloureux pour lui tout seul. C'était pas pensable.
Archives Radio France.
Moi-même, j'alignais comme ça des lignes ou des mots, c'était parfois un titre ou parfois un refrain, mais il y avait jamais cet ensemble de choses. Et je me retrouvais avec des espèces de travail solitaire. C'est pour ça que je me voyais un peu comme une sorte d'auteur-compositeur incomplet, à compléter chaque fois avec un autre. Et au fur et à mesure, j'envoyais quelque chose à quelqu'un et il me le rendait. Et ce cheminement était assez intéressant et il produisait une certaine énergie que je n'aurais pas eue tout seul, sinon je l'aurais fait tout seul. Alors, il y a eu comme ça des partenaires assez différents, mais au bout d'un moment, c'était moi un petit peu quand même le dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il fallait que je ramène les choses à moi, soit je sélectionnais ou je provoquais des choses. En tout cas, il y avait un travail de recherche et puis de tomber sur des mots qui n'avaient pas été utilisés. En fait, quand j'attaque un album, j'essaie d'abord de savoir ce qui est vraiment, ce qui me paraît urgent ou important de dire sur le moment, ou ce qui est à compléter. Alors, dès que j'ai ça, je crois que l'album peut se faire.
Comment on fait, Boris, quand on écrit, carrément, on relate la vie de l'autre et qu'on s'y implique? Comment on fait pour ne pas violer l'autre?
J'ai fait ce que font plein de gens, j'ai procédé par identification, quoi.
Boris Bergman, parolier.
C'est-à-dire que, évidemment, dans nos parcours, on avait plein d'accidents en commun, plein d'événements en commun, donc je me suis servi de mes propres accidents. Puis après, c'était ce que les Britanniques appellent le shot in the dark. Je tirais dans le noir, et puis de temps en temps, il faisait aïe, donc j'ai touché. De temps en temps, il faisait raté. Je savais qu'il était adopté, je savais que... Mais il y a des tas de choses que j'ai mis énormément de temps à découvrir, quoi. Non, il les lâchait au compte-gouttes, hein, c'est les infos. Mais je pense que, de toute façon... Je pense que si j'avais, à un moment, mis une phrase sur une musique et que je touche de trop près quelque chose qui lui faisait mal, je pense qu'il l'aurait supprimé.
Oh, les textes, quelle aventure.
Jean Fauque, parolier.
Fallait faire abstraction de tout orgueil ou quoi. Il arrivait et puis il disait, regarde, là j'ai collé deux phrases, là j'en ai mis ça, et puis lui-même avait ses propres idées, ses propres trucs. Et il faisait du collage, 100 fois sur le métier. Mais presque à chaque fois, j'avais envie d'arrêter. Après, c'est trop fatigant, c'est pas possible, c'est épuisant. Et puis, il me jetait beaucoup, hein. Il y avait beaucoup de trucs. Des fois, bon, j'étais un peu déçu, je me disais, zut, là, quand même. Mais comme il y avait cette espèce d'écriture un peu fantasmagorique, qui partait un peu dans tous les sens, il finissait toujours par, des fois au moins une phrase ou un truc qui se tenait, à trouver quelque chose, mais l'y amener des chansons faites où il touchait rien, construites d'un bout à l'autre. Non. Non, et puis surtout, comme je crois qu'il a fait avec tout le monde, il foutait vraiment sa patte dedans. C'était pas le genre de mec à prendre la guitare, dire super, je te la chante. Il fallait toujours qu'il mette son grain de sel.
Archives Radio France.
Si je tombais sur quelqu'un qui, comme ça, me livre tous les matins une dizaine de textes où on touche à rien, je serais ravi, moi. Parce que c'est un boulot fou pour moi. Ça me demande d'assembler des choses comme ça, ça prend beaucoup de temps et c'est réellement un travail pour moi. Et si ça correspond pas à quelque chose que je ressens vraiment, ben ça, il y a pas de conviction, quoi. Voilà pourquoi je me suis, j'ai bousculé des gens. Je sais pas, je m'excuse de les avoir dérangés, mais j'espère qu'ils s'y retrouvent.
Pascal Jacquemin, on est en 1983 et vous coécrivez les textes de l'album Figure Imposée. Comment ça se passait le travail avec Alain Bachung?
Ah ben c'était pareil, j'ai été passé dans la même moulinette. Je faisais des paroles sur une chanson, ensuite je faisais des paroles sur une autre, on se voyait deux à trois fois par semaine. Il prenait les trois chansons, il les lisait et ensuite il pouvait prendre un bout du deuxième couplet de la première pour mettre dans le premier couplet de l'autre ou en faire un refrain. Enfin bon, il faisait un mélange incroyable et il fallait toujours que les paroles lui racontent quelque chose. Donc il fallait le laisser faire à ce moment-là, puis ensuite remettre en ordre, recommencer, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui le satisfaisait lui et me satisfasse aussi moi. Moi je parlais des choses qui m'intéressaient. Je parlais d'expériences qui étaient les miennes et il y avait parfois des liens ou des choses qui correspondaient à sa vie à lui, mais sans que je le sache.
Debout de ma planche, j'observe le décolleté en V. Sommes tous bien arrivés, amitié. Ici, on pourrait croire que la vue est imprenable. Tout est si calme ce soir. Faudra bien entrer, améliorer nos choses. Pour glisser, vous séduire, of course. L'hypothèse d'un malentendu est exclue. Madame n'a cessé d'être douce. Calme ce soir, puis-je être aimé.
France Inter, Bachung. De l'aube à l'aube.
Aujourd'hui, le laboratoire du docteur Bachung.
Pascal Jacquemin, parolier.
À la suite de plaies blessures, Alain m'a appelé en disant « Voilà, je voudrais que tu fasses le prochain album en tant que parolier. » J'ai pensé qu'il était tombé, il avait fait une mauvaise chute dans la nuit ou quelque chose, donc j'ai dit « Attends, la dernière personne que t'as eue, c'est quand même Gainsbourg, quoi, donc je vois pas très bien, je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux, quoi, en toute humilité, quoi. » Et non, il y tenait, et... J'ai dit attends, je vais réfléchir, laisse-moi un peu réfléchir parce que je voyais pas très bien ce que je pouvais faire et écrire des paroles comme jouer pour quelqu'un d'autre, j'avais jamais fait écrire des paroles, j'avais jamais fait non plus pour quelqu'un d'autre que pour moi. Je me suis dit est-ce que je peux relever un défi comme ça? Bon, j'essayais d'oublier ce qu'il pouvait y avoir eu avant, évidemment au niveau des paroliers, mais bon, je trouvais que c'était intéressant et puis c'était risqué, donc c'était encore plus intéressant, quoi.
Est-ce que Bachung vous dit pourquoi le titre de l'album c'est Figure imposée?
Oui, il avait des problèmes d'impôts, donc on est rapidement arrivé à cette figure imposée qui était à la fois, ça avait plusieurs sens parce que Alain avait un souci, c'était que deux cartons de suite, j'entends Gabi et Vertige de l'amour, le mettent définitivement sur une étagère avec une étiquette. Et ça le dérangeait, et ça lui faisait peur même, c'était plus que dérangé, ça l'inquiétait, parce que pour lui, il avait envie il avait d'autres choses à proposer, et sur une période longue, donc il voulait surtout pas devenir un produit jetable. Cette figure imposée était justement celle qu'il allait pas faire, et en plus il avait un problème de contrôle fiscal, ce qui nous faisait rigoler.
Hey, Sam Sylvis, à la scène comme à la ville. Salami, hey, Dol décoiffé, d'envergure au moins nationale. Qu'as-tu, déshabillé, t'en veux à ma vertu.
On savait très bien que cet album-là, ne pouvait pas devenir un succès. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai jamais fait cet album en me disant on va être au top 50, parce que je crois que ça existait encore à cette époque-là. C'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé, et je pense qu'il l'envisageait pas non plus. C'était pas du tout calibré pour ce type de hit-parade, quoi. Mais c'était une déclaration d'intention. Il fallait que son public potentiel et éventuellement les gens qu'il n'avait pas encore touchés, parce qu'il avait touché énormément de gens avec Vertige de l'amour et Gabi, mais qui n'étaient pas automatiquement son public à long terme. Donc il fallait une déclaration d'intention qui soit forte. Il y en avait déjà une qui était très forte avec Gainsbourg, mais qui était peut-être un peu teintée de la personnalité de Gainsbourg. Et là, c'était une deuxième déclaration d'intention qui était plus marquée de son sceau, quoi.
Alain Bachung avait une relation quasi passionnelle, exclusive avec ses paroliers. Est-ce qu'il avait ce rapport aussi exclusif et passionné avec vous? Vous étiez à lui, autrement dit?
Oui. J'ai mis fin à notre collaboration le jour où je l'ai vu sur un magazine avec mon costume de mariage, ma guitare. Enfin, il y avait tout, quoi. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une pause parce que ça va quand même très loin, quoi. Donc oui, c'était tout à fait exclusif, oui.
What's in the bird? Put it what's sur la tête, reconnais que je suis volage. What's in the bird? Ça me fait convoler, éperdument juste un os. What's in the bird? Demain j'arrête la flûte, j'aimais pourtant tous azimuts. What's in the bird? À part les échimaux, c'est purement psychosomatique. Mais les chavales, sans doute tout ça ne cure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries excitent sa frénésie. Jus de fantaisie, à tout suite son bougie. 5-4-3 dehors, tourbillonné. What's in the bird? Votre cas m'intéresse, veuillez reposer la question. What's in the bird? Déclin très net des stocks d'amour et de satisfaction. What's in the bird? Trouve-moi un sobriquet libre.
Bon, l'idée de What's in a Bird,
Pascal Jacquemin.
Ça permettait d'aller dans tous les sens. Ça, j'étais vraiment preneur que chaque phrase ait un sens, enfin, aille vraiment complètement ailleurs de la phrase précédente. Donc ça, c'était vraiment, What's in a Bird, c'était un vrai régal à faire.
Et pourquoi les kiwis m'empêcheraient-ils d'être serein? What's in the bird? Nous remercions l'armée pour sa précieuse documentation. C'est quoi que c'est? L'ambulance de monsieur est avancée, bien avancée. Mais vous savez, sans doute tout ça ne que moi. Petit à petit, l'oiseau fait sonner.
De l'aube à l'aube.
Aujourd'hui, le laboratoire du docteur Bachung.
Archives Radio Suisse Romande. Bachung.
Dans la mesure où je ne cherchais pas trop à plaire à tout le monde, j'avais un peu pris l'habitude que les gens ne me comprennent pas vraiment, parce que je pense que la vie est souvent semée de malentendus perpétuels. Donc j'ai arrêté de m'expliquer. C'est pour ça que j'ai plutôt raconté des choses un peu surréalistes, parce que l'absurde me correspondait plus, j'arrivais plus à m'expliquer par l'absurde que par quelque chose de plus cartésien.
L'ennemi numéro un d'Alain Bachung, c'est l'ennui.
Marc Besse, auteur de Bachung une vie, paru chez Albin Michel.
Refaire le même disque deux ou trois fois, c'est impossible pour lui. C'est commencer déjà à rentrer dans une phase de propre contemplation de soi-même, ce qui n'était absolument pas sa manière de concevoir et sa propre personne, et sa musique. Quand il rentre dans Figure imposée, il n'est pas forcément en train d'imaginer une musique révolutionnaire par rapport à celle de Plaie Blessure. Identiquement, quand il rentre dans Passer les Rio Grande, il n'imagine pas forcément une musique qui soit à l'inverse de celle qui était dans Figure imposée. Il n'y a pas une volonté systématique d'aller prendre le contre-pied dans l'album suivant de ce qu'était le précédent, mais plus une volonté chez lui de prolonger ce qu'était le précédent en apportant un autre esprit dans celui qui suit.
Chantal Monterastelli, deuxième épouse d'Alain Bachung.
Je pense que professionnellement, c'est l'artiste le plus intègre. Il a toujours résisté à toutes les sirènes si elles ne correspondaient pas à ce que lui voulait faire. Sa ligne directrice était très tracée. À ses débuts, où on lui a dit « mais il faut changer de nom parce que c'est ridicule, ça va jamais marcher, puis il faut vous faire refaire le nez, mon pauvre garçon, parce que vous avez vu votre profil », ça l'a laissé d'une indifférence totale. De la même façon que ceux qui lui disaient « dis donc Gabi, c'est vachement bien, tu nous en fais un autre ». Non, fallait qu'il aille complètement ailleurs. Mais lui seul avait cette espèce d'opiniâtreté dans une recherche de pureté et d'épuration de sa musique.
Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes et les cartouches tout en douceur, tu savais ce qu'il faut dire pour la faire mouiller la machine.
Je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsis.
Quand il attaque passer le Rio Grande, il y a l'envie de réussir ce qui a été raté, ou qu'il considère comme raté, sur Figure imposée.
Marc Besse.
Les deux disques se ressemblent énormément. Ils ont tous les deux une dimension solaire, avec beaucoup de chansons joyeuses, sautillantes, déconneuses, mécaniques aussi. On est vraiment dans l'exploration d'une certaine new wave à la française. Hein. On est vraiment dans des années 80 typiques et défendues et explorées avec bon goût et choix. Et Passer les Rio Grande est un disque qui pousse vraiment le bouchon de la new wave rigolote, pop, jusqu'au bout. Presque jusqu'à la caricature. Parce que le retour de Bergman au texte, la re-rencontre entre les hommes, fait que ça doit être un moment joyeux. Et ça s'entend.
Boris Bergman.
Lors du festival d'Antibes, quand Alain vient pour toucher un prix pour What's in a Bird, et moi pour la réalisation d'un clip que j'avais fait pour un groupe qui s'appelait New Dice. Le renvoyé fait, et voici maintenant le président du jury, Jacques Demy. Et ensemble, synchrone, Alain et moi, on a fait Sans Mousse. Et on s'est regardé, on s'est marré, après on s'est parlé. Puis une semaine après, Alain m'a rappelé.
Voilà, Passer le Rio Grande, ça c'est l'album des retrouvailles. Et vous voulez faire un album humoristique, dites-vous.
Non, là, on n'a pas voulu, ça s'est fait comme ça. C'est un album de retrouvailles, c'est où on parlait de nos références. On avait envie de parler de nos références. On avait envie de s'amuser. Alain avait envie de faire des références au country qu'il aimait. Comme dans Velvet Underground, on avait, en fin de compte, la Suisse nous a servi de prétexte, parce que c'est vrai que de Velvet à Helvet, il y a pas loin au niveau du son, et on s'est un petit peu, avec la mauvaise foi, un petit peu comme dans je ne sais plus quel film, Peter Falk, qui dit du mal des Albanais régulièrement, il les connaît même pas, mais c'est une espèce de tête de turc artificielle. Je crois qu'on s'est jamais autant moqué de nous deux, de notre amour pour le country, pour le Velvet, que dans cette chanson. La Suisse nous a servi de décor, quoi, de réunion, c'était... On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé avec cet album.
On est enchaîné sur la baie de Lausanne. Pour un pélican, combien de frangipane? Charles Guilly, Guilly, coucou de contrebande. Ça sonne comme la bête.
On a souvent utilisé des trucs que j'ai, des bêtises que je disais comme ça, sans vraiment aucune arrière-pensée. C'est-à-dire, comme ça pour détendre l'atmosphère, pour nous faire rire, pour, voilà. Souvent, elle m'a dit, bah, tiens, utilise-le, là, c'est bien. Donc, c'est vrai qu'on avait c'est pas par hasard si, à un moment, j'avais l'impression qu'on nous considérait comme les Laurel et Hardy du rock'n'roll. C'est vrai qu'on était clown blanc, Auguste, on a été très très complémentaires. Et puis en plus, à force d'avoir sa voix dans l'oreille, pour moi c'est de plus en plus facile pour écrire les textes. Je savais très bien, vous savez, ce qui est formidable quand on écrit pour un chanteur, c'est d'utiliser ses défauts. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont absolument pas sonner, mais mal, chez quelqu'un d'autre, et sur ce chanteur-là, ça va sonner parfaitement bien. Bon, Alain avait, au niveau des phrasés, c'était pas difficile pour moi, parce que c'était des phrasés qui venaient de Dylan, du Velvet Underground, période Warhol, après du rock anglais. Donc, tout ça, c'était des grosses, grosses influences pour lui. Enfin, quand j'ai ce genre de phrasés, quand j'ai ce genre de playback, pour moi, c'est une glissade sur un toboggan de miel d'acacia.
À genoux, les majorettes, c'est demoiselles au parloir. Sonnez, résonnez, musette, à nous de la victoire. Loin les cul-jat, ça court les rues, à la poursuite du monde sans but. Non, y'a pas le feu au QG, non, y'a pas le feu au QG, le feu au QG. Ce n'est qu'un arrosoir. Tomahawk sur la
Qu'est-ce que c'est que l'arrivée du tour?
L'arrivée du tour, c'est l'histoire d'un mec qui arrive chez sa nana et lui voit le mec dans l'armoire. C'est pas du tout ce que tu crois.
Boris Bergman, parolier.
C'est tout, c'était... C'est arrivé, puis c'était aussi une manière de nous moquer d'une certaine France profonde, qui aime le vélo, le foot, et voilà, qui aime pas trop le rock'n'roll, quoi, qui est pas très rock'n'roll, mais bon, enfin, c'est un peu ça, c'est un peu un mec qui arrive chez lui, puis il y a une barsouze, quoi, et sa femme lui, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est un tomahawk dans l'armoire, c'est, voilà, c'était un peu à l'ouest, un peu à l'anglaise, quoi, c'était un...
Il y a des histoires de sexe un peu partout. Je vois bien à votre sourire et à votre regard que vous faites un malin plaisir à cacher ça derrière des...
Oui, c'est vrai que je dois être un obsédé sexuel quelque part.
C'est vous qui l'avez dit.
Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que vous voulez... Ça m'amuse, c'est une manière de... Voilà, c'est-à-dire que moi, je peux nier avec la plus grande mauvaise foi du monde. Non, c'est pas du tout... Ça veut rien, c'est pas du tout ça.
Non, il y a pas le feu au cul.
C'est incroyable, tout l'album est vraiment truffé de choses comme ça. C'est complètement fou, on dirait une autre langue.
Archive Radio France.
Je crois qu'on devait être très triste et on avait envie de déconner, mais sérieusement, quoi. Alors, voilà, ça a donné ça.
Mais c'est drôle, hein, quand on écoute les paroles.
Mais c'est fou.
Enfin, moi, ça me fait rire.
C'est une des chansons les plus invraisemblables que je connaisse.
Mais on a l'impression que c'est ça que vous cherchez quand vous écrivez des paroles, à inventer une langue.
C'est un peu ça, parce que peut-être que j'ai l'impression que tous les chanteurs que j'ai pu connaître, enfin je parle de chanteurs français, ont fait de très belles choses pour essayer d'aller un peu ailleurs. Peut-être qu'il y avait cette idée d'exotisme, de s'exprimer carrément autrement, en essayant de se faire comprendre d'une certaine manière quand même. Alors des fois, vous voyez, c'est plus ou moins ludique.
Je pense pas qu'on soit totalement obligé de comprendre, au sens le plus cartésien du terme, ce que les gens disent pour être touché.
Boris Bergman.
Souvent, avec Alain, j'employais cette expression, vous savez, cette fameuse expression de Faulkner, qu'on n'a pas réussi à traduire, qu'on a traduit vaguement par l'occupation, qui est streams of consciousness, les flots de conscience. Et souvent, ce que j'essayais le plus dans une chanson, c'était de garder cette espèce de fil rouge. Et puis, de temps en temps, bon, il y avait des clés, il y avait des doubles sens. Je sais pas, j'aime bien quand il y a entre ce que je propose aux gens, et Alain était vraiment d'accord avec ça. Entre ce que je propose aux gens et ce qu'ils reçoivent, il y a un no man's land dans lequel ils peuvent se faire, suivant l'humeur, suivant que, voilà, ils viennent à la fin de leur vie, ils ont bien mangé, ils n'ont pas encore reçu leur feuille d'impôt, que les gens puissent réagir différemment au même texte. Une chanson, vous allez la remettre le lendemain, vous allez la remettre... Et moi, je pense que plus il y a de couches, plus elle va durer longtemps. Le jour où vous allez comprendre exactement comment elle est faite, vous allez vous en lasser, je pense. Moi, je trouve que ces chansons, c'est comme un être humain, c'est comme une belle femme, ça ne doit pas livrer ses secrets tout de suite. Ce que j'aimais bien dans les bouquins de Chandler, c'est que j'étais totalement perdu, quoi. Et que c'est pas grave.
Je me rachète et je me revends des idées.
De l'aube à l'aube. France Inter.
Aujourd'hui, le laboratoire du docteur Bachung. L'album Novice, en 1989.
Si Novice peut incarner une espèce de contre-pied par rapport à Bassel Rio Grande, c'est très certainement pas dans la musique.
Marc Bess, biographe.
C'est dans sa noirceur, dans son humeur. Bassel Rio Grande est un disque solaire. Novice est un disque crépusculaire, ténébreux, anthracite. Novice, déjà... Quand on appréhende le langage bachungien, on comprend qu'il y a plusieurs sens dans ce titre. Novice, ça peut être pas de vice, no vice. Ça peut être novice, N-O-S-V-I-C-E-S. Et puis, novice, V-I-S, imaginons-le comme ça. C'est nos petites mécaniques intérieures. Ça indique clairement que le contenu de l'album va... plongé au fond des entrailles, au fond de nos petites mécaniques intérieures. C'est un disque de rupture en plus. Une fois de plus, il rompt avec Bergman.
En fait, pour être tout à fait clair, il avait un peu un rejet des textes de passer le Rio Grande, où il trouvait que c'était too much dans les jeux de mots, tout ça. Et...
Jean Fauque, parolier.
Et voilà, il n'en était pas très content, et peut-être tout à coup... d'aller vers cette écriture plus posée, ou d'ailleurs Boris Bergman est allé aussi. Bon, Alcaline, c'est une chanson magnifique, hein. Et Résidence aussi, moi j'adore Résidence sur cet album. C'est plus touchant, c'est plus direct. Tout à coup, en fait, il fait tomber le masque un peu, il arrête de se planquer derrière autre chose. Alors qu'est-ce qui se passe aussi, et ça c'est quelque chose de très important. Cette année-là, grâce à son épouse Chantal, il arrête totalement de boire. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans la création, ça change beaucoup de choses dans la profondeur. Il se planque plus derrière la dérision. Il chante différemment, parce qu'Alain, c'est vrai aussi des fois que cette façon d'exagérer un peu... Eh ben, il y a un peu l'effet alcool aussi, un peu forcé qui compte, hein. C'est plus retenu, c'est plus mûr. Et puis, il a en plus un courage extraordinaire, parce que il arrête l'alcool, il fait une cure pour aider à arrêter. Et là, il arrête. Comme il l'avait fait en 82, il arrête totalement la picole, et ça durera 10 ans. C'est important, c'est important. L'arrêt de l'alcool lui donne de la sérénité, de la maturité, et il fait tomber le masque. Il n'y a plus besoin de trop se planquer comme il avait souvent fait jusque-là.
Boris Bergman, parolier.
Je dirais qu'une chose par rapport à cet album, c'est que je savais en le commençant que ça allait être le dernier. C'est vrai, je sentais que ça allait être le dernier. Je sentais qu'on on revenait vers les choses qui nous avaient séparés, quoi. Et donc, j'ai voulu copier un petit peu Nel Sedaka à l'époque. Et ils avaient écrit une chanson qui s'appelait « This is the last song we ever wrote together ». C'est la dernière chanson que nous écrirons ensemble. Moi, j'ai voulu faire pareil. Donc, effectivement, si tu veux, je peux t'aider. Ça m'a l'air plutôt lourd à porter. Qu'un phrasé très tzigane, d'ailleurs. Blabla, je sais plus, après, j'ai oublié. Et puis, t'aimes plus les mots roses que j'écrivais, quoi. Et là, il était quelqu'un d'intelligent. Il a très, très bien compris. Il n'a pas relevé, mais il a très bien compris qu'en fait, moi, je lui faisais chanter ma lettre de démission, quelque part. Et c'est vrai que pour moi, c'était bon, c'était le... Voilà, c'était la... Là, je crois que l'auteur du chat a fini en beauté, quoi. Fini sur un bel album.
Si tu veux, je peux t'aider. Ça m'a l'air un peu lourd à porter. Sur ta rien oublié, les bateaux. Tu viens couper court à notre histoire, à tiroir. Dehors, l'incandescence n'approuve que les larmes d'un sang. Je veux tout réécouter. Vaguement brisé. Sur une plage alcaline.
Pierre Mikhaïlov, auteur de « Bachung, vertige de la vie », paru aux éditions Alphée.
Alors le contrat, entre guillemets, entre Fauck et Bachung, il est un petit peu le même depuis le début, c'est-à-dire que depuis le début, Bachung lui demande des textes, et pendant très longtemps, il va les refuser. Il lui promet jamais de les utiliser, mais il lui demande toujours des choses, ou de lui montrer ce qu'il est en train de faire. Et... À un moment donné, ça va être à la fin des années 80, au moment de Novice, il va s'apercevoir que l'écriture de Fauck a mûri, qu'elle lui correspond davantage, et que là, ils vont pouvoir faire des choses ensemble. Alors, c'est intéressant l'album Novice, parce qu'à ce moment-là, Fauck signe encore les textes seuls. Donc ce qu'on écoute, il a une petite place encore sur Novice, c'est encore un album où les textes sont en majorité de Bergman. Ce qu'on oublie, parce qu'on, comme c'est un album sombre, on a tendance à penser que Bergman n'est déjà plus là sur Novice, alors qu'il est très présent. Et Fauck a encore seulement un strapontin à l'époque. Donc le contrat moral, si tant est qu'il y en ait eu un entre Bachung et Fauck, c'était peut-être quelque chose du genre... On bossera ensemble quand tu seras prêt, on bossera ensemble quand tu seras mûr. Vis dans ton coin, mûris, amasse de l'expérience, et quand tu es prêt, on bosse ensemble. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre.
Jean Fauck, parolier.
Je sentais en tout cas qu'il fallait arrêter avec ce qu'on avait fait pendant 10 ans, avec un peu les jeux de mots, les jeux sonores à outrance, et qu'il y avait quelque chose dans l'époque qui disait qu'il fallait passer à autre chose. Et... c'est toujours pareil, je crois que finalement, en étant moins impliqué, on a moins peur, et de tout à coup de vouloir faire des chansons qui étaient moins des chansons, et en me disant après tout, je les montrerai peut-être à Alain, comme d'hab, comme un premier lecteur. Et puis là, il y a comme une révélation, il me dit, écoute, c'est dingue, parce que je voulais aller vers cette écriture, arrêté un peu avec le truc, les jeux de mots, les machins, aller vers une écriture plus poétique. Je me suis remis à relire les poètes que j'avais un peu négligés depuis pas mal de temps. Et lui, tout à coup, ça lui fait un sacré truc, parce qu'il a tout à coup son vieux pote qui lui montre ce vers quoi il voulait aller sans qu'on ait eu du tout à évoquer, à dire « je voudrais faire ci, je voudrais faire ça ».
Marc Bess, biographe.
Il y a une différence fondamentale entre la manière dont Bachung travaille avec Bergman et dont il travaillait avec Jean Fauque. Dans sa collaboration avec Bergman, les musiques étaient faites d'abord. La ligne de chant était donnée dans un langage qu'on appelle le yaourt, qui est en fait ni plus ni moins qu'une somme de mots qui n'ont aucun sens, mais qui donnent le rythme, qui donnent les tonalités, qui donnent les toniques et qui permettent de définir une ligne de chant. Ça, c'était fait avant, et les textes de Boris venaient s'enchasser, s'adapter à cette ligne de chant qui était donnée au départ. Avec Fauque, c'est complètement différent. C'est les mots qui donnent leur musicalité. Le texte devient plus important dans le sens où il est posé. Avant, une valise de mots est définie, c'est une déambulation, une circulation du sens qui se met en place et qui finissent par structurer un texte qui a une tête et une queue. Et derrière, la musique vient s'agréger. Ça, c'est la différence fondamentale entre les deux. Ça indique aussi deux postures de Bachung par rapport à son parolier. La première posture, avec Bergman, c'est « voilà la musique, fais rentrer les mots dedans ». C'est un défi. Avec Fauque, la manière de travailler nous indique bien qu'il y a plutôt une envie d'aller ensemble. Le mot sert de trait d'union. Et la chose qui est à considérer, c'est que si Boris n'est jamais intervenu dans les musiques d'Alain, en studio. Par contre, Fauque, lui, est musicien et est intervenu dans les musiques d'Alain depuis les maquettes que très souvent Alain faisait avec Jean, jusqu'à l'étape finale du mix où Jean se permettait de dire à Alain, je pense que telle option est mieux que celle-ci ou celle-là. Donc, on voit vraiment une manière différente de vivre sa propre musique et de favoriser la création. La première, très certainement, un peu dans l'adversité, dans le défi, dans le jeu, un peu le concours. Et la deuxième, vraiment dans la complicité, dans l'envie de voyager ensemble.
Seriez
jamais s'aborder. Les vélos s'envolaient, je t'en voulais, t'en voulais. La mariée s'ennuyait et je me calcinais. Étrange but, je m'en sortirai.
De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Suter et David Golan.
Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques, réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Croballion et Ralph Dallaire.